Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Il y a beaucoup de gens qui reviennent de vacances. Les semaines passées, c'était un peu vide, mais là, les chaises commencent à se remplir. On est dans la joie, n'est-ce pas, de se retrouver ensemble, vivre la communion fraternelle. J'ai même la chance de revoir un visage que je n'avais pas vu depuis un moment, ce matin. Jeanette Johnson, sois la bienvenue parmi nous. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui nous visitent. Soyez chacun, chacune les bienvenus. Sentez-vous à l'aise. Nous sommes en famille dans la maison du Seigneur. Et voilà, ce matin, j'aimerais vous proposer de partager un texte ensemble. Un texte qui parfois nous dérange. Vous savez, il y a deux catégories de textes qui se trouvent dans cette classe. Donc les textes qui parlent d'une manière un peu trop vraie en ce qui nous concerne, c'est des textes qui nous dérangent, qu'on a tendance à essayer d'éviter. Et puis il y a des textes qui nous renvoient une image différente de celle qu'on se fait de Dieu. Alors, cette catégorie de textes, on essaye d'éviter. Ce matin, je vous propose de regarder ensemble le texte où Jésus chasse à les vendeurs du temple. Hein, vous savez, ce texte qui se trouve dans Matthieu 21, et on va lire des versets 12 à 17. Et j'ai intitulé ce message « Sainte colère ou indignation naturelle ». Alors si on peut... Ah oui, c'est moi qui ai la main sur les slides. Excellent. Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles et suivre ensemble ce texte. Pour ceux qui n'ont pas des Bibles, donc vous pouvez le suivre à l'écran. Et voici ce que dit le texte. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, « Il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » Puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passe la nuit. On va faire quelques lectures parallèles avec ce même récit qui est rapporté par l'évangéliste de Jean, au chapitre 2. C'est un texte important, j'ai envie de dire, parce qu'il est rappelé dans les quatre évangiles. Non seulement les chrétiens d'aujourd'hui sont un petit peu dérangés à la vue de ce texte, simplement parce que, comme on l'a chanté ce matin, on a chanté la bonté de Dieu, on a chanté son amour, on a chanté et témoigné de sa fidélité, des soins qu'il nous le porte. Ça, c'est l'image qu'on se fait de Dieu. Et c'est un petit peu le caractère que tout au long de son ministère terrestre, Jésus n'a cessé de démontrer. Et on l'a vu, on le sait dans ses chapitres précédents, ses 20 chapitres précédents, à ce chapitre 21 que nous venons de lire, Jésus fait du bien, Jésus guérit, Jésus ressuscite des morts, Jésus enseigne, Jésus relève, Jésus encourage. Et là, ce texte qui nous montre un Jésus sous un tout autre caractère. Et les chrétiens de tous les temps se sont posé des questions concernant ce texte. Et j'étais... interpellé, j'étais surpris, j'ai trouvé intéressant de voir comment ce même texte a été interprété tout au long de l'histoire. Et ce texte a été utilisé par des chrétiens dans l'histoire pour condamner la simonie. Vous savez, c'est le fait d'acheter ou vendre des biens matériels, des sacrements ou des charges ecclésiastiques. Ce texte a été utilisé pour valoriser les lieux du culte. Ce texte a été utilisé pour théoriser une saine colère. Ce texte a été utilisé pour appeler à la croisade. Ce texte a été utilisé pour justifier la violence contre les hérétiques, vous savez, la chasse aux sorcières. Ce texte est utilisé pour appeler à une conversion intérieure. Alors j'aimerais qu'on prenne le temps ce matin pour dépasser ce type de lecture que moi je fais souvent, à savoir une lecture superficielle, et voir quel est le message que Dieu souhaite nous transmettre au travers de ce qui vient de se passer. Nous sommes à Jérusalem, nous sommes à l'époque de la fête des Pâques. Vous savez, cette fête, une fois par année, chez le peuple juif, cette fête qui dure 8 jours, cette fête qui fait que les Juifs de toutes parts viennent à Jérusalem pour célébrer cet événement. J'ai regardé, Jérusalem en temps normal à cette époque avait 80 000 habitants. Pendant cette fête de Pâques, la population de Jérusalem atteignait 300 000 à 400 000 personnes. Cet été, on est parti en vacances et on a fait un arrêt à Amsterdam. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Amsterdam, mais ces temps-ci, c'est la folie. Impossible de faire un mètre sans bousculer quelqu'un. C'est une très jolie ville, il y a beaucoup de choses à voir, mais la surpopulation est impressionnante. Et du temps de la Pâque, à Jérusalem, c'était le cas. On n'arrivait pas à marcher, on se bousculait, on se rentrait dedans, comme on dit. Le temple. Je ne vais pas rentrer dans le détail du temple. Mais c'était un événement, c'était quelque chose. Le temple, c'était le centre de la vie spirituelle des Juifs. Le temple, il avait été détruit plusieurs fois, et à chaque fois, il avait été rebâti, reconstruit. D'ailleurs, la dernière fois, on avait mis 46 ans pour le reconstruire, sous Hérode le Grand. Et c'était la fierté des Juifs. On ne va pas rentrer dans le détail des dimensions. Mais juste une image qui montre comment c'était organisé. Le soin que les Juifs avaient pris pour organiser ce lieu de culte. On voit au milieu, en haut, le lieu très saint. L'endroit où, une fois par année, le souverain sacrificateur rentrait. On voit un peu plus bas l'endroit où les sacrificateurs se tenaient. Là où les sacrifices étaient faits. Une pierre de 25 mètres de long, où les différents sacrifices étaient offerts en holocauste à Dieu. On voit ce qu'on appelle la cour des Juifs, des Israélites, un endroit réservé au peuple d'Israël. On voit un endroit en bas réservé aux femmes. Tout était bien organisé. On appelait ça la cour intérieure, tout cela. Et enfin, on voit une enceinte extérieure qu'on appelle la cour des gentils. Là où les étrangers, ceux qui ne faisaient pas partie du peuple des dieux, avaient le droit de se tenir et dans lequel où ils venaient pour offrir leur adoration aussi au Dieu des Juifs, à l'Éternel. Jésus est là, dans cet endroit majestueux. Il se promène, et qu'est-ce qu'il observe? Le texte nous raconte. Il tombe sur ses vendeurs, sur ses changeurs de devises qui sont là. Et le texte nous raconte 3 événements. Sa réaction face à ces vendeurs, ces changeurs de devises qui sont là. Il nous raconte la façon dont Jésus s'emporte, vraisemblablement. Il raconte comment il chasse donc tout ce bétail qui est là, chasse ses vendeurs. Il fait le ménage sur ses tables d'échangeurs. Le texte nous raconte un deuxième événement. Ces boiteux, ces aveugles qui sont guéris. Et puis un troisième événement qu'on a vu. Ces enfants qui louent Jésus-Christ. Et derrière tout cela, ces Juifs qui sont dans l'incompréhension. Ces Juifs, ils sont choqués. Verset 15, les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés. Donc quelque part, comme nous, si on fait une lecture superficielle, ils étaient aussi dans l'incompréhension. Geste incompris. Alors, est-ce que, première question qu'on se pose, est-ce que Jésus s'est mis en colère? C'est vrai que la Bible, dans l'Ancien Testament, on trouve pas mal de versets qui parlent de ce Dieu qui se met en colère. Et je ne vais pas rentrer dans le débat colère sainte, colère humaine, colère parfaite, imparfaite. J'aimerais mettre le focus peut-être sur une réaction un peu plus humaine qui nous concerne nous, qui nous touche nous. Et plutôt que rentrer dans une mauvaise interprétation qui a été le cas plutôt par dans le passé, pour justifier la colère, dire que, rappeler simplement que la colère humaine, en tous les cas, est un sentiment reprouvé par Dieu. Galates, donc Paul, Galates 5, il qualifie la colère comme une conséquence, une réaction, un fruit de la chair. Quelque chose qui est reprouvé par Dieu. Paul rappelle aux Éphésiens que la colère, c'est quelque chose qu'on doit fuir. Que la colère ne doit pas, que le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère. Éphésiens 5, 4, 26. Le dictionnaire dit que la colère est une manifestation d'un sentiment lié à une blessure, un manque, une frustration, et se caractérise par une réaction vive. Le non-contrôle de la réaction engendre la violence. La colère en tant que sentiment et la violence en tant que manifestation incontrôlée sont reprouvées par Dieu dans la Bible. Et on se pose la question, est-ce que Jésus s'est mis en colère? Est-ce qu'il s'est emporté au point qu'il ne contrôlait pas ses paroles, ses actions? Je vous propose de regarder un peu plus en profondeur ce texte. Il faut que je me tienne un peu plus loin du micro. Au travers de ces trois points, regardez dans le détail la réaction du Seigneur Jésus. Et ensuite, analysez deux reproches que Jésus fait à ses interlocuteurs. Un premier où il dit « Ma maison sera appelée une maison de prière et non pas une maison de trafic. » Et un deuxième reproche qu'il adresse à ses interlocuteurs, « Ma maison de prière sera appelée une maison pour tous, et non pas une maison pour quelques-uns. » Alors, est-ce que Jésus s'est mis en colère? Notre inconscient fait que, effectivement, on pense que Jésus s'est mis en colère. Et dans le texte parallèle de Jean, chapitre 2, qui raconte ce même événement, Jean précise que Jésus s'est saisi d'un fouet. Et la croyance populaire, on le retrouve dans les tableaux, qu'on voit souvent accrochés un peu partout dans les musées, la croyance populaire tend à nous faire croire, tend à nous faire penser que Dieu, que Jésus, Dieu en la personne de Jésus, aurait fouetté les chasseurs, les combistes avec ce fouet. Mais le texte ne le dit pas. J'aimerais juste rappeler que les fouets, à cette époque, en tous les cas, étaient utilisés tout simplement pour contrôler les animaux. Donc il est plus juste de penser que ce fouet a servi Jésus à sortir les animaux de la cour extérieure. Et je m'arrête là, pour ce point-là. Alors, si ce n'est pas de la colère, de quoi peut-on parler? Je vais introduire la notion de l'indignation. Quand j'étais adolescent, j'ai vécu quelque chose de... Je vous raconte un témoignage. Une fille se faisait embêter par un groupe de garçons, très classique. au point où il y a une bagarre qui se déclenche. Une fille toute seule, trois ou quatre garçons, et moi observant ça de loin. Courageux comme je suis, je me suis tenu à distance pendant tout ce temps, jusqu'au moment où, dans cette espèce de bagarre qui s'était qui avait commencé là, un des garçons déchire la blouse de la fille. Et on entrevoit, à un moment donné, une partie de son intimité, on va dire ça comme ça. Ça fait que j'ai réagi. Je suis passé à l'action, je me suis interposé. Et la suite, ça s'est bien terminé. Mais voilà, quelque chose qui nous fait réagir. Je me suis indigné. L'indignation, dit le dictionnaire, est un sentiment qui s'exprime lorsqu'une personne se sent atteinte dans sa dignité ou réprouve une atteinte à la dignité d'autrui. L'indignation se distingue nettement de la colère en ce qu'elle peut s'exprimer sans le trait principal de la colère, qu'est la violence ou l'agressivité. Il y a quelque temps, on a témoigné quelque chose qui est arrivé à un de mes grands garçons, une agression qu'il a subie. Et je me rappelle encore, donc les personnes qui avaient agressé mon garçon avaient filmé ça, ils l'avaient fait circuler sur les réseaux sociaux. Et je me rappelle avoir demandé aux policiers de me montrer cette vidéo. Et je peux vous dire que quand j'ai vu la vidéo, mon garçon se fait battre par un groupe de personnes. Ah, ça m'a fait quelque chose. Est-ce que c'était l'indignation? Certainement. Est-ce que c'était de la colère? Aussi. J'aurais pas donné cher de la tête de ces personnes si jamais je les avais croisées. De quoi Jésus s'indigne au juste dans ce texte? Alors toujours dans le texte parallèle de Jean, les disciples de Jésus, en voyant, en entendant les paroles du Seigneur Jésus, je lis chapitre 2 de l'évangile de Jean, la fin du verset 17, les disciples se souvinrent de ce qu'il est écrit. Et il cite ce verset de l'Ancien Testament, « Le zèle de ta maison me dévore. » Est-ce que c'est la sainteté du lieu? Est-ce que c'était ces bâtiments? Est-ce que c'était ces pierres qui a causé, qui était à l'origine de la réaction du Seigneur Jésus? Jésus dira un peu plus loin, « Les gars, je crois que vous n'avez pas tout à fait compris. » Démolissez ce temple et en 3 jours, moi, je le rebâtirai. Il place les choses au bon niveau. Et on pense à ce dialogue, à cette discussion entre Jésus et la femme samaritaine. Vous vous rappelez? Où Jésus explique à un moment à la samaritaine que ce n'est pas à Jérusalem qu'on va adorer Dieu, ce n'est pas sur le mont Gérasim qu'on va adorer Dieu, c'est en esprit et en vérité qu'on va l'adorer. Alors, c'était certainement pas à cause de ce lieu que Jésus s'indigne. La Bible nous dit que Jésus avait cette capacité de regarder les gens. Et rien qu'en le regardant, il savait ce qui remplissait leur esprit. Il savait ce qu'il y avait sur leur cœur. Je me plais à croire que dans ce texte, Jésus a constaté l'abîme qu'il y avait entre le discours officiel de ces prêtres qui régissaient la vie du temple et la volonté ultime de Dieu pour ce lieu de prière. Jésus ici va se faire comme la continuité, la suite de ce qui avait été déjà annoncé par beaucoup de prophètes avant lui. Il dit en somme, à quoi ça sert de faire des sacrifices si l'homme ne change pas son cœur? On lit dans Osée, chapitre 6, verset 6, Je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. On lit Ésaïe, un autre prophète, qui dit exactement la même chose. Que m'importent vos prières ? Moi, je ne les écoute pas. C'est fort ce qu'il dit. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de vos mains, de ma vue, vos actions perverses. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Et encore Jérémie, chapitre 7, verset 8 et la suite. Vous vous fiez à des paroles mensongères, à ce qui vint. Quoi ? Vous volez, vous tuez, et ensuite vous vous présentez en temple et vous dites « Nous voilà en sûreté » pour continuer toutes ces abominations. À vos yeux, est-ce un repère de brigands ce temple qui porte mon nom ? Jésus s'indigne des dérives. Jésus, non seulement il s'indigne intérieurement, mais il va réagir. Il va manifester extérieurement quelque chose qu'il ressent à l'intérieur de lui. J'aimerais citer une phrase d'un pacifiste indien, Gandhi, que Rajai doit bien connaître. Il dit « Pour obtenir réparation de l'injustice, nous devons refuser d'attendre que le coupable ait pris conscience de son iniquité. » Il ne faut pas que de peur de souffrir nous-mêmes ou d'en voir d'autres souffrir, nous restions complices. Au contraire, il faut combattre le mal en cessant d'apporter notre concours aux malfaiteurs d'une manière directe ou indirecte. Jésus a voulu ne pas se rendre complice de ce qui se passait dans le temple. Jésus a voulu ne pas collaborer, ne serait-ce que indirectement ou tacitement, à ce système religieux qui s'est mis en place et qui, petit à petit, s'est éloigné de la pensée des dieux. Quelle était la pensée de Dieu pour le temple ? En faire une maison de prière. Le temple devait représenter la présence de Dieu, l'endroit où on vient rencontrer Dieu, l'endroit où on vient rentrer en relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Tout autre chose. Et je me pose la question pour moi, qu'est-ce qui m'indigne encore aujourd'hui ? Je me pose la question pour moi, mais Dieu nous la pose tous ce matin. Qu'est-ce qui m'indigne encore aujourd'hui ? Quelle est ma conception de la dignité de Dieu ? Quelle est l'idée que je me fais de la dignité de Dieu ? Est-ce que je m'indigne du péché dans ma vie ? Est-ce que je m'indigne quand je vois que la sainteté de l'Église est atteinte ? Est-ce que je m'indigne quand l'honneur, le nom de Dieu est bafoué dans le monde ? Aujourd'hui, je m'indigne quand le prix de l'essence monte trop. Aujourd'hui, je m'indigne quand j'entends que les glaciers en Antarctique sont remplis de plastique, des poussières de plastique. Mais est-ce que c'est les seules choses qui causent mon indignité ? Est-ce que c'est les seules choses qui font que je réagis aujourd'hui en tant que chrétien ? La Bible dit « Fuyez le mal et attachez-vous au bien » Romains chapitre 12, verset 9. Et la Bible va un peu plus loin et dit « Ne participe pas au péché d'autrui » 1 Timothée chapitre 5, verset 22. Mais l'apôtre Paul va encore plus loin. En Éphésiens chapitre 5, verset 11, il dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Colère, indignation. Jésus va faire deux reproches à ses interlocuteurs. Il dit « Vous faites de cette maison de prière une maison de trafic, une caverne de voleurs. Pendant les fêtes, tout devenait plus cher. Vous imaginez bien que quand on passe de 80 000 personnes à 300 voire 400 000 personnes, tout devient compliqué. Se loger, se nourrir, je ne vous raconte pas les enchères. On dit que le prix des aliments pouvait atteindre jusqu'à 50 fois sa valeur initiale. Et il en était de même pour les aliments qui étaient vendus comme offrande, que ce soit le bétail, que ce soit les oiseaux. Pour exemple, un couple de tourtereaux, en temps normal, ça coûtait un denier d'argent. Pendant les fêtes de Pâques, ça venait à coûter un denier d'or, 25 fois plus cher. En temps normal, on sacrifiait quelques dizaines d'animaux dans le temple. Pendant Pâques, on venait à sacrifier, c'est l'historien Joseph qui le dit, à peu près 250 000 têtes d'animaux. Vous vous rendez compte? Tout le système qui s'est mis derrière, on comprend pourquoi la cour extérieure était remplie de vendeurs, d'échangeurs, pourquoi la cour extérieure était remplie d'animaux de toutes sortes. Il fallait répondre à cette demande. C'était quelque part juste et nécessaire. D'ailleurs, quand Jésus a été présenté par ses parents, Joseph et Marie, c'est là que Joseph et Marie se sont servis. C'est là qu'ils ont acheté les tourteaux. Alors, on comprend l'étonnement des Juifs à voir la réaction du Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus dit, « Ne faites pas de cette maison de prière une maison de trafic, une caverne de voleurs. » Jésus refuse qu'on défigure à ce point-là la volonté de Dieu. Jésus refuse que la maison de Dieu devienne une maison de voleurs. Pour lui, les premières victimes, c'était qui? Les pauvres. C'était les veuves qui n'avaient pas la capacité d'acheter suffisamment. Parce qu'il faut comprendre, derrière, le système religieux avait imposé que plus on sacrifie à Dieu, plus on recouvre une pureté. Plus on sacrifie à Dieu, plus on honore Dieu. Vous vous rendez bien compte qu'une personne pauvre, qui ne peut pas offrir un taureau, qui ne peut pas offrir un bélier, qui ne peut offrir que des tourtereaux, il avait le sentiment quelque part qu'il était moins pardonné. Il avait le sentiment peut-être qu'il honorait moins Dieu. Vous imaginez un petit peu la fausse idée que ça pouvait véhiculer? Jésus parle de maison de prière. Il ne veut pas que la maison de son Père devienne une maison où on prie comme les païens. Dans Matthieu, verset, chapitre 6, verset 7, il disait « Ne priez pas comme les païens qui s'imaginent que c'est à force de parole qu'on atteint Dieu. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. » On est arrivé à penser que le culte à Dieu, c'est une sorte de marchandage où il faut beaucoup donner à Dieu pour recevoir en retour. Quelqu'un dit, on ne prie pas Dieu pour qu'il sache, mais parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. On ne prie pas Dieu pour qu'il agisse, mais parce qu'on sait qu'il agit pour le meilleur. On ne prie pas Dieu pour être aimé de lui, mais parce que on est aimé de lui. On ne prie pas Dieu pour qu'il soit avec nous, dans les bons et dans les mauvais jours. On prie Dieu parce qu'il sait qu'il est avec nous. Ce n'est pas l'homme qui agit sur Dieu. Jésus se plaît à nous rappeler ça. C'est Dieu qui voudrait bien agir dans le cœur humain. Tous les matins, quand je me lève, la première chose que je fais, c'est j'ouvre les volets de la maison. Et en ouvrant les volets de la maison, il y a la lumière de l'extérieur qui rentre et qui éclaire, qui illumine la maison. La prière, c'est un peu ça. Ce n'est pas moi qui fais lever le soleil à l'extérieur. C'est Dieu qui a fait lever le soleil. Mais par contre, en ouvrant la fenêtre, je permets à Dieu de laisser entrer la lumière dans ma maison. La prière, c'est ça. C'est ouvrir la fenêtre de nos cœurs, de nos vies, pour laisser Dieu entrer dans nos vies et apporter sa lumière. Ne faites pas de cette maison de prière une maison de trafic. J'ai envie de dire merci. Merci Seigneur, je te bénis, parce que nous avons auprès de toi un libre accès. Je peux librement ouvrir cette fenêtre qui te laisse rentrer dans ma vie, venir éclairer tout ce qui est ténèbres. Je dis, je te prie Seigneur de m'aider à me garder de construire des systèmes, un peu comme dans le temps des Juifs, qui m'éloigneraient de ce que tu souhaites pour ta maison de prière. Avec Dieu, ce n'est pas du donnant-donnant. Avec Dieu, c'est de dire merci. Je suis perdu dans mes slides. Voilà. Non. Je termine avec ce slide. Hébreux chapitre 10, un texte que vous connaissez. C'est pourquoi en entrant dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est Jésus qui parle. C'est de Jésus dont il est question. Tu n'as pas pris plaisir au holocauste ni au sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est pour cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire nous. On n'a plus rien à amener à Dieu. Qu'est-ce que je pourrais amener pour acheter la faveur de Dieu, la grâce de Dieu? Quand je regarde ma vie, je ne vois que imperfection, je ne vois que manquement. Heureusement que Christ a déjà tout accompli à la croix du calvaire. Sacrifice parfait. Deuxième reproche, vous faites de cette maison de prière pour tous une maison pour quelques-uns. Le texte que Jésus cite ici, ma maison sera appelée une maison de prière. En fait, il a un peu raccourci. Dans Ésaïe 56, la suite dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et tout le contexte d'Ésaïe 56, ça parle de l'acceptation des étrangers dans une alliance nouvelle avec le Dieu d'Israël. Vous vous rappelez la cour extérieure, cour intérieure, cour extérieure. La cour extérieure était réservée aux étrangers, aux gentils, aux païens qui sont devenus croyants. Cette cour extérieure qui était remplie de bœufs, de taureaux, de béliers, des tourtereaux, des maisons d'échangistes. Jésus vient de faire la place pour permettre que ceux qui étaient censés être à cet endroit, les étrangers, puissent y trouver et donner à un moment donné adoration à ce Dieu pour qui ils étaient montés, ce Dieu qui venait rencontrer depuis les contrées lointaines. Deuxième événement qui nous est rappelé dans ce texte, Jésus guérit des aveugles et des boiteux. Avez-vous remarqué que dans les textes de l'Évangile, les estropiés, les infirmes, se tiennent toujours à l'écart? Ils ne sont jamais à l'intérieur du temple. Le verset 14, ici, dans notre texte, nous dit que des aveugles, des boiteux, s'approchèrent de Jésus dans le temple. Vous savez pourquoi ils s'étaient nés à l'écart? C'était un ancien édit du roi David, un règlement, un décret. À un moment donné, il s'est énervé contre des boiteux, des aveugles, après une campagne avec les Jébusiens. Il les avait irrités, et alors David met en place ce règlement qui est respecté encore jusqu'à ce moment-là, où les boiteux, les aveugles, les estropiés sont tenus à l'écart du temple. Leur accès leur est interdit, limité, restreint. Jésus, ici, il accueille les aveugles pour la première fois dans le temple. Il accueille les estropiés, ces boiteux, et il les guérit. Verset 15. La surprise, l'étonnement, l'indignation des sacrificateurs est énorme. Qui est cet homme qui ose venir remettre en cause une loi établie par le roi David? Plus que ça, des enfants arrivent dans le temple et ils commencent à louer Jésus-Christ en disant « Hosanna au fils de David ». Les Juifs de dire, les sacrificateurs, mais tu entends ce qu'ils disent? Tu es en train de contredire une loi établie par un de tes ancêtres et tu permets qu'il chante des louanges à ton nom. Jésus accepte. Et il établit par là le fait qu'il est plus grand que celui qui avait établi cette loi, son père David. L'un des piliers de la religion juive de l'époque était bâti sur la distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur. La séparation était le mot d'ordre. Et je ne sais pas si vous vous rappelez le schéma d'organisation du temple. Tout était compartimenté, tout était séparé. Jésus ici rappelle une grande vérité, une grande et nouvelle vérité. Dans la nouvelle alliance qu'il est en train d'établir, il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus les bons portants et ceux qui sont infirmes. Il n'y a plus ceux qui sont spirituels et ceux qui ne le sont pas. Le temple de Dieu, la maison de prière, ce que Jésus représente à ce moment-là, est maintenant bâti sur une autre base, l'accueil de tous. Et moi, je me pose la question pour moi, à la vue de ces textes. Qu'en est-il pour ma façon de regarder les autres? Je pense pour notre Église, qui est censée être un lieu d'accueil. Des fois, je me dis, mais c'est rare qu'il y ait des SDF dans notre assemblée. Alors que pas très loin, il y a des gens de mauvaise vie, des prostituées, des drogués, c'est rare. Il n'y en a quasiment jamais. Alors que dehors, il y en a plein. Est-ce que moi, je vois la maison de prière de Dieu de manière à accueillir ceux qui sont à l'extérieur? Ou est-ce que je m'occupe à voir mon église, mon assemblée, comme quelque chose qu'il faut préserver? Où ceux qui me ressemblent sont là, où ceux qui pensent comme moi, où ceux qui ont les mêmes valeurs sont là, et on est bien entre nous. En tout le cas, Jésus, il dit ici aux aveugles, aux boiteux, à tous ceux qui sont dehors, Votre place est ici. Dieu vous accueille dans cette maison. Deux versets que je rappelle. Jésus qui parle dans Matthieu 11, 28 et dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Hébreux 10, nous avons au moyen de Jésus-Christ, de son sacrifice, un libre accès dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Il n'est plus question de cour extérieure, cour intérieure, lieu très saint. Libre accès dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée pour nous. J'aimerais conclure maintenant. Je remarque une chose. Jésus n'est pas resté passif. Il n'a pas voulu se rendre complice de cette situation qu'il a vue là établie depuis des années dans le temple de Jérusalem. Il n'a pas voulu collaborer de manière passive à cette espèce de travesti de la pensée de Dieu qui s'était créée et formée au travers de ce système religieux. Il a agi, il a réagi. Et Jésus, il dénonce deux choses. Vous faites de cette maison de prière une maison de trafic. Vous faites de la maison de mon Père, qui est pour tous, une maison pour quelques-uns. J'aimerais terminer en nous posant cette question, chacun pour notre part. Qu'est-ce qui m'indigne encore aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'indigne encore aujourd'hui ? Et je vous laisse ces trois applications pratiques, alors qu'on est à l'aube de la rentrée scolaire, alors qu'on veut lancer des activités nouvelles, alors qu'on veut poursuivre nos projets d'église, alors que, voilà, on va faire appel à des volontaires pour s'engager dans tout plein de services que nous envisageons de mettre en place. Trois applications pratiques. Je les fais miennes. Hein. Premièrement, rechercher à mieux connaître la dignité de Dieu. Qu'est-ce qui fait la gloire et l'honneur de Dieu ? Qu'est-ce qui fait la valeur intrinsèque de Dieu ? Qu'est-ce qui fait que son œuvre, ce qu'il a fait, son plan pour le futur, moi je le considère. Deuxième application pratique, je propose de jalouser, j'utilise bien le mot jalouser, souvent on le voit comme un sentiment négatif, mais dans la Bible, ça a des connotations très positives. Hein. Jalouser la dignité de Dieu. Autour de nous, au milieu de tous. 2 Corinthiens 5, 20 dit que nous sommes ambassadeurs. On est censé, en tant qu'ambassadeurs, défendre les intérêts de celui qui nous a envoyés. Est-ce qu'on le fait ? Moi, je me pose la question pour moi. Est-ce que je le fais ? Que Dieu me garde de construire un système qui viserait à compléter, augmenter la dignité de Dieu. La grâce, l'œuvre de Dieu, est gratuite, inconditionnelle. Et troisième application, préserver ma dignité en Dieu. La Bible dit que Dieu nous a rendus dignes. Ça veut dire quoi ? Ça rejoint la première application pratique. En quoi je préserve ma dignité en Dieu? Je suis ce que Dieu a fait de moi. Ne pas permettre le péché dans ma vie, ne pas permettre que rien vienne enlever de ce que Dieu m'a donné. Que Dieu nous aide dans cette rentrée qui s'annonce et qu'il nous conduise dans ce sens. Je vous propose de prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est efficace. Merci parce qu'elle est comme cette épée à double tranchant qui rentre au plus profond de nous-mêmes, qui pénètre dans nos cœurs, notre âme, et qui fait la part des choses. Seigneur, que ce texte que nous avons étudié, lu ce matin, au-delà d'avoir une résonance en nous, puisse nous pousser, Seigneur, à considérer ces vérités que Jésus a voulu exprimer. Aide-nous, Seigneur, comme on l'a vu, à être indignés quand il le faut. Aide-nous, Seigneur, à ne pas rester complices de certaines choses qui se passent, qui se disent. Nous sommes censés être tes ambassadeurs, Seigneur. Nous sommes censés être ces relais, comme l'ont été autrefois tes prophètes, pour dénoncer le mal. Merci pour le message de la bonne nouvelle. Merci Seigneur, parce que s'il n'y a pas de mauvaise nouvelle annoncée, la bonne nouvelle qu'on amène ne pourra jamais être reçue. Seigneur, conduis-nous, garde-nous, de manière à pouvoir rester dignes de toi, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.